Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Une histoire d'amour, aujourd'hui, toute simple, dont la seule particularité est de concerner un homme et une femme qui, à cause de leur âge, pensaient que c'était fini. Suzy, 60 ans, et Georges, 74 ans. Ils étaient veufs tous les deux, ils avaient tiré un trait sur leur vie amoureuse. Et puis Internet les a fait se rencontrer, et ça donne un très joli livre signé Suzy Morgenstern et Georges Rosenfeld, chez Bayard, « Fleurs tardives » au pluriel. Tout ce que je vais vous raconter vient tout droit de ce livre. Je le précise parce que vous risquez d'être un peu surpris par mon récit. Et Suzy est avec moi depuis Nice, en direct. Bonjour Suzy.
Bonjour Christophe.
Pas trop d'appréhension parce que votre livre tout de même, Suzy, est plein de confidences très intimes.
Mais c'est un peu ma philosophie de la vie, de partager qui on est, de raconter nos secrets. Et c'est ce que je fais depuis 45 ans.
Et vous avez un peu forcé la main à Georges, hein, parce que lui, c'est pas du tout sa philosophie de vie.
Non, il a un peu changé avec moi. Obligé.
Mais lui est plus timide, plus réservé. Il ne lui serait pas venu à l'idée de raconter à tout le monde. Et aujourd'hui, à la radio sur Europe 1, votre première nuit d'amour.
Je l'ai forcé. J'ai dit qu'il y en a qui doivent tuer les dragons. Toi, il faut que tu joues ce jeu avec moi.
À tout à l'heure, Suzy. Voici donc votre histoire tirée de votre livre « Fleurs tardives » qui paraît chez Bayard. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1. Christophe Ondelat.
Au tout début de cette histoire, Suzy et Georges ne se connaissent pas encore. Ils sont veufs et malheureux, mais chacun dans leur coin. Suzy a 60 ans, elle a perdu son mari Jacques 11 ans plus tôt, un cancer. Et elle en est au stade où elle se dit « Ma vie n'est pas finie, mais ma vie amoureuse, oui. Tant pis, j'ai un travail, j'ai des enfants, je viens d'avoir une petite fille, j'ai de quoi remplir ma vie. » Mais il y a un signe qui ne trompe pas. Elle arrête de cuisiner, et pourtant elle adorerait cuisiner, mais pour quelqu'un. Elle s'achète des plats surgelés, quelle horreur! Des barquettes qu'elle glisse dans le micro-ondes, du poisson sans goût, vous voyez? Et puis elle ne se fait pas sueur. Elle mange directement dans la barquette. Ça fait moins de vaisselle. Georges, lui, a 74 ans. Il a perdu sa femme, Heidi, d'un cancer, là aussi. Et c'est touchant, c'était son premier amour. La première fois qu'il a dit « je t'aime » à une femme. Et ils ont passé 40 ans ensemble. Quand Heidi meurt, il se retrouve très seul, très seul. Et il ne supporte pas la compassion de ses amis, ni celle de son fils et de ses petits-enfants. Alors il s'éloigne, il se planque, il s'emmure dans la solitude. Et puis un jour, il reçoit un mail. Un site de rencontre lui offre un mois gratuit. Il se dit « ça n'engage à rien, ça ne débouchera sans doute sur rien, mais ça peut être amusant ». Et donc, il s'abonne. Suzy, c'est son gendre qui la secoue. Ça fait plus de 10 ans qu'elle est veuve, et un jour il lui dit « Écoute, ça suffit de pleurer, Suzy. T'es encore potable !» Et c'est lui, son gendre, qui l'a inscrit sur un site de rencontre. Au début, je ne sais pas si vous avez déjà essayé ce genre de site. C'est très addictif. Alors elle se connecte, un peu comme une adolescente qui va à une boum. Elle relève ses messages, c'est très excitant. « Ah oui ?» Celui-là, il est pas mal. Oh, celui-là, non. Hein. Oh, pas celui-là. Hein. Mais elle ne va pas plus loin. Ça reste virtuel. Elle se dit que ça doit être un ramassis de mythomanes, tous ces mecs. Alors elle leur répond pas. Elle ne cherche pas à les rencontrer. Comme ça, elle n'est pas infidèle à son fantôme de mari. Et puis un jour, elle tombe sur Georges. Elle lui envoie un message. Et pourtant, sur la photo de son profil, c'est pas le prince charmant. Et il répond. Sujet, verbe, complément. Très simple. Reposant par rapport aux autres qui en font des caisses. Et elle se met à lui poser des questions. Taille ? 1m88. Très bien. Je ne veux pas d'un plus petit que moi. Fumeur ? Non. Bien. Je ne supporte pas la fumée. Juif ?
Oui.
Circoncis ? Là, à l'autre bout, Georges tique un peu. Il est juif, mais il a grandi hors de toute culture juive. Alors il répond...
Vérifie toi-même.
Oh, ça devient chaud. Au tour de Georges, maintenant, de poser des questions. D'abord physique.
Je suis grosse. J'ai des grands pieds. Et je suis pas top modèle.
Ça lui va, à Georges. Mais elle lui dit aussi qu'elle est écrivain. La prétentieuse. Alors il va vérifier en tapant son nom sur Google. Hein ? Elle n'a pas menti. Elle écrit, elle publie, elle a obtenu des prix. Un bon point. Ils viennent de se donner rendez-vous à Paris, sur le quai de la gare de Lyon. Ils sont là, sur le quai. Georges arrive de Suisse et Suzy habite à Nice, mais elle est à Paris depuis quelques jours. Important, ils ne se sont jamais échangés de photos. Oui, je sais, des jeunes l'auraient fait, mais pas eux. Vont-ils se reconnaître ? Eh bien, oui. Georges arrive au bout du quai avec sa petite valise. Il la voit tout en rose, il la reconnaît tout de suite. Et elle ? Je vois un grand dégingandé, là, courbé avec un imperméable digne d'un espion de la guerre froide. Un homme sans une minute de moins que l'âge annoncé. Oh, les oreilles ! Les oreilles ! On a dû l'appeler Dumbo quand il était petit. Et là arrive un moment assez délicieux. Georges n'a pas de point de chute à Paris. Alors que Suzy sait où dormir, puisqu'elle dort chez sa fille. Alors il lui a demandé de lui trouver un petit hôtel. Et elle lui a réservé le Novotel à côté de la gare. Ils y vont tout droit pour déposer la valise.
Bonsoir, messieurs, dames. Alors, nous avons une réservation, n'est-ce pas ? C'est pour une ou deux personnes ?
Lui, il est un peu embarrassé. Mais elle ?
C'est pour deux.
Bon. Elle a dit deux. Je veux bien. Nous voici donc dans une chambre d'hôtel. Standard. Moi, confus, je me tiens au milieu. Que faire ? Que dire ? Je ne sais pas. Et elle, pendant ce temps-là ?
Bah, j'ai répondu à sa place qu'il voulait une chambre double. Mais c'était pour qu'il ait plus d'espace. Je pensais faire un brin de conversation et puis reprendre le métro.
Vous y croyez ? Pas moi. Là-dessus, la fille appelle.
Maman ? Maman, tu rentres à la maison. Tu rentres à la maison tout de suite.
Et confiance, ma chérie. Allez, je t'embrasse.
Georges, on pourrait demander de nous faire monter une bouteille de rouge, qu'est-ce que t'en penses ? J'ai pas trop envie de ressortir.
Room service.
C'est lui qui retire le bouchon. Et qui remplit les verres. Mais c'est elle qui le pousse sur le lit. C'est pas son genre, c'est pas du tout dans ses habitudes. Elle est elle-même un peu ahurie de ce qu'elle vient de faire, mais en vérité, elle a compris qu'elle avait affaire à un grand timide. Et avec le recul, elle se dit que c'est la meilleure démarche qu'elle n'ait jamais entreprise de sa vie. Et lui, il n'en revient pas.
Il n'est pas très beau, plus très jeune. Il se considère comme vieux. Et là, il a cette femme sur lui. Waouh ! Et elle ? J'étais tout de suite chez moi, dans ce pays de chair, de peau, de bras, de lèvres. Ses lèvres étaient blindées, rouillées, mais coopératives. Il a enlevé ses lunettes et puis tout le reste. Je suis pas fier de ma personne physique. Trop grasse. Mais lui, il avait l'air moins décomplexé avec son slip de l'avant-guerre. Je me suis blotté contre lui. Et j'ai réveillé un mort, endormi, depuis longtemps. Vient le moment où Georges, 74 ans, doit aller chercher son Viagra dans sa trousse de toilette. Et voilà. Et après, ils s'endorment scotchés l'un à l'autre dans une symphonie de ronflements. Et le lendemain, Paris, 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 main dans la main. Enfin non d'ailleurs, à un moment elle lui prend la main, il la refuse. La pudeur sans doute. La matinée se passe, il déjeune, et puis l'après-midi, Suzy veut aller se changer, elle est dans sa tenue de la veille. Et donc ils se disent, à ce soir. Et Suzy rentre chez sa fille. Et là, mamma mia. Non mais maman, t'es devenue cinglée. Tu découches. On dirait une ado. Mais t'as pas 15 ans, maman, enfin t'es folle. Et ses petits-enfants qui lui font la gueule. Et elle, bye bye, elle va rejoindre son amoureux pour une nuit de plus. Et après ils rentrent chacun chez soi. Suzy dans sa maison de Nice et Georges dans sa maison sur le lac de Neuchâtel en Suisse. Et c'est rigolo, parce que chacun dans leur coin, ils font le même constat. C'est le bordel chez eux. Il faut qu'ils rangent. Et oui, la même mécanique a joué dans les deux cas. Veuf, les enfants partis, Suzy a accumulé en tas, et Georges a arrêté de remonter les pendules, entre autres. Et donc les retrouvailles se font chez lui, en Suisse. Il va la chercher à l'aéroport de Genève, en train, figurez-vous. Il n'a pas de permis de conduire, il ne conduit pas. Et elle, ça lui paraît surréaliste, un homme qui ne conduit pas. Et puis les voilà chez lui, sur les bords du lac de Neuchâtel, face aux Alpes. Il lui a préparé une petite chambre rien que pour elle, au cas où. Elle lui dit « Non mais ça va pas, on n'a plus de temps à gaspiller ». À un moment donné, le fils de Georges, un géant, passe une tête. Il a peur, Georges. Qu'est-ce qu'il va penser en découvrant que son père s'est amouraché d'une parfaite inconnue, qui prend une partie du cœur jusque-là uniquement réservée à sa mère? Mais ça se passe bien. Et d'ailleurs, tout le séjour se passe bien. C'est bien parti, leur affaire. Et la prochaine fois, c'est chez elle, à Nice. Quatre jours. Ils ont prévu de passer quatre jours ensemble à Nice. Et là, c'est au tour de Georges d'avoir des angoisses. Vont-ils m'accepter ? Il pense aux amis et aux enfants de Suzy. Et en tout cas, il arrive bien en avance à l'aéroport de Genève. Pas question de louper l'avion. Et à l'autre bout, à Nice, Suzy aussi a ses angoisses. Comment est-ce que je vais le mettre dans le lit de mon mari ? Eh oui, parce que ce lit, elle se souvient très bien du jour où il a été fabriqué, par un ébéniste, il y a bien longtemps, suffisamment haut pour qu'elle et son mari puissent voir la mer depuis leur plumard. Comment inviter un étranger dans ce lit ?
Quoi qu'il en soit, le premier séjour de Georges chez Suzy, à Nice, se passe bien, très bien même. Il mange chez l'une des filles de Suzy, ça va, elle est bienveillante. Ils marchent le long de la mer, ils vont manger une soca, ils vont pique-niquer au soleil. Et l'endroit, la maison sur les hauteurs, plaît à Georges. À ce détail près que les toilettes sont un peu loin et qu'il lui faut une lampe de poche pour y aller la nuit. La fois d'après, il se retrouve à Paris. Mais là, plus question d'hôtel, il se retrouve chez la fille de Suzy. Vous vous souvenez, celle qui avait traité sa mère d'ado attardé la première fois qu'elle avait découché. Depuis, la position de la fille et des petits-enfants a un peu évolué. Mais pas totalement.
Je vois bien, dans leurs yeux, qu'ils le trouvent gentil et qu'ils se disent « Qu'est-ce qu'elle fout avec lui ?»
La fois suivante, c'est à nouveau chez lui, en Suisse. 2 semaines. Suzy va chez le coiffeur se refaire une couleur. Elle passe aussi chez l'esthéticienne se faire épiler. Et elle prend l'avion pour Genève. Et lui, pendant ce temps-là, il se pose ses éternelles questions.
Est-ce que la maison est assez rangée, hein? Est-ce que c'est assez confortable pour elle? Comment je vais la nourrir?
La voilà arrivée. Et dans le train qui les emmène tous les deux chez lui, elle se dit...
Tiens, je commence à ne plus voir ses oreilles.
Pendant ce séjour, ils font Shabbat tous les deux. Je vous l'ai dit, ils sont juifs tous les deux. Ça compte beaucoup. Ils vont aussi passer une journée dans un camp naturiste, à poil. Et quand vient le moment de se quitter,
j'aime sa cuisine. J'aime sa douceur, son affection. J'aime sa sérénité qui déteint sur moi. Peut-être bien que je l'aime aussi.
Mais elle reconnaît qu'elle aime aussi son absence. Et là, ça se passe par téléphone. Cahin, cahin. Un jour, il part en voyage sans elle. Il n'appelle pas de la semaine.
Le téléphone portable n'est pas une annexe de sa main. Ah ça non. Il n'a pas le réflexe de m'écrire 17 fois par jour. Et il n'entend pas toujours la sonnerie quand je l'appelle. Mais quand il répond pas, je l'imagine étalé par terre, gisant, en danger.
Il leur arrive même de parler mariage. Mais ils ne sont pas riches et chacun perdrait la pension de réversion de son défunt. Alors le mariage, eh ben ça sera pour une autre vie. En vérité, ils ont trouvé la recette. Ne pas vivre tout le temps ensemble. Vivre une histoire en dehors de la vraie vie. La vie des factures, des corvées, de l'entretien d'une maison. Profiter de chaque minute qu'ils passent ensemble, c'est tout. Aller à l'hôtel, par exemple, dans de beaux hôtels. Et pour Georges, apprendre à supporter qu'elle vienne picorer avec sa fourchette dans son assiette. Chez lui, ça ne se faisait pas. Il faut apprendre à faire des concessions. Par exemple, quand ils sont chez Georges, après son bain, il vide la baignoire et il la rince. Alors que quand ils sont chez Suzy, ils se lavent dans la même eau qu'elle. Odorante, moussante, chaude. Chez Georges, c'est lui qui remplit le lave-vaisselle.
Oh ben ça, c'est pour éviter que je fourre une assiette plate dans sa rangée d'assiettes creuses, oui.
Et idem, quand ils sortent du lit. Depuis toujours, dès qu'elle pose le pied sur terre, avant même d'avoir fait pipi, Suzy fait son lit. Georges va mettre 10 ans à lui dire.
Tu sais, moi, je préfère qu'on aère la chambre avant de refaire le lit.
Ah, les petites manies de l'un et de l'autre. Georges, par exemple, il met son manteau avant d'enfiler ses chaussettes et ses chaussures. Et la nuit, il se lève au moins 3 fois, et après, il se rendort. Mais pas elle. Elle l'a prévenu au tout début.
Georges,
Si tu tombes malade, désolé, mais c'est au revoir. Et bonne chance. Je pourrais pas supporter une autre maladie comme l'agonie de mon mari. Je t'aurais prévenu, je pourrais pas.
Et bien entendu, elle ne va pas faire ce qu'elle a dit. Avec toujours ses problèmes de communication. Suzy, il lui faut des appels à heure fixe. Il faut qu'il lui envoie des messages quand il va au cinéma, par exemple. Et lui, il oublie.
Dis donc, est-ce que ça serait pas trop te demander d'écrire une ligne « Je vais au cinéma » ?
Parce qu'elle, à ce moment-là, elle voit les pompiers, les urgentistes, le lit d'hôpital. Réponse de Georges.
Relax. Ne pense pas toujours à des catastrophes. Et puis évite de me faire sentir emprisonné. Je t'assure que je ferai de mon mieux, mais il m'arrivera encore d'oublier.
À un moment, agacée, elle lui fait une drôle de proposition. Ne pas s'appeler pendant une semaine. Réponse de Georges.
Cesser pendant une semaine ? Toute communication entre nous ? Je l'accepte. Mais je le ressens comme une punition. Comme un danger latent de désunion. Sans toi, ma vie serait une catastrophe. Un tas de débris dont je ne sais pas comment je sortirai. Il ne me reste que ça. Et je m'y accroche. L'espoir que nous trouvions un chemin d'entente.
Et après viennent les petits malheurs de la vieillesse qui, malgré la différence d'âge, 14 ans, va finir par les mettre tous les deux à égalité. D'abord, Georges fait un malaise, seul, chez lui, en Suisse. Il se retrouve à l'hôpital et Suzy annule tout et elle débarque à Neuchâtel. Et elle le trouve en robe de chambre avec une couche. Pas très sexy, hein. Et avec son fils, ils se mettent à parler maison de retraite. Et après, c'est elle qui fait une péricardite et puis un cancer des ovaires. Opération, 3 mois de chimio. Et c'est lui, Georges, qui l'accompagne à la première séance. Et la vie continue, avec ses hauts, ses bas, et notre amour, fleur tardive et précieuse, fruit d'un hasard de la vie, qui ne se fane pas. Voilà donc pour cette histoire tirée du très joli livre de Suzy Morgenstern et Georges Rosenfeld, « Fleur tardive » au pluriel, qui est publié par les éditions Bayard. Vous êtes là, Suzy ?
Je suis là, je souris d'une oreille à l'autre.
Est-ce que j'ai été fidèle à votre histoire ?
Très fidèle, très fidèle. Il faut un peu plus peut-être de prose pour enrober les moments choc.
Alors, quelle est l'histoire de ce livre d'ailleurs ? Parce que, vous êtes, il y a tout un tas de choses que j'ai pas dit sur vous. Vous êtes écrivaine, vous publiez beaucoup de littérature pour enfants, vous êtes connue pour ça en France, aux États-Unis, vous avez reçu un certain nombre de livres. Il y a plein de gens qui se disent « Ah mais c'est elle, ça y est, c'est Suzy Morgenstern. Vous êtes connue, vous êtes écrivaine. » Lui, pas du tout. Il n'est ni connu, ni écrivain. Comment est-ce que vous arrivez à le convaincre de tout raconter dans ce livre ?
Alors, j'ai démarré premier chapitre et je lui ai envoyé en disant que c'est une façon d'être ensemble quand on n'est pas ensemble. Et il a joué le jeu. Et c'était ça, c'était un jeu. C'était pas pour faire un livre.
Alors comment ça va depuis la sortie du livre ? Est-ce que vous allez bien l'un et l'autre ? Et où en êtes-vous de cette promesse ? Si tu tombes malade, c'est au revoir.
Mais non, c'était une fausse promesse et puis on est trop impliqués l'un dans l'autre, alors c'est plus possible.
Il n'est pas certain finalement, parce que dans votre esprit, quand vous posez la promesse, c'est « si tu tombes malade ».
Je me barre.
Et oui, et c'est moi qui tombe malade.
Et il est là.
C'est moi. Et puis, on se sent invulnérable. Et puis, ça arrive.
Donc, vous avez révisé votre position.
Ah oui. Ah oui. J'y vais demain. Et puis, on va faire des dédicaces à Neuchâtel samedi après-midi.
Voilà.
Les premiers pour Georges.
Je m'en doute. Alors, les auditeurs ont sans doute été un peu surpris par votre côté cru, hein, le côté très, très cash de votre récit. Moi, j'ai rien inventé. Toutes les scènes que je décris sont tirées directement du livre. Vous êtes très cash. Georges moins.
Je lui ai dit qu'à nos âges, on n'avait pas le temps de faire la cour. Et puis, je savais que s'il fallait l'attendre, on aurait attendu encore 10 ans.
L'idée d'ailleurs de raconter votre histoire, c'est de dire aux gens, sortez de votre coquille, il y a encore un tour à jouer, un tour de manège, un dernier.
Oui, je pense que ça pourrait aider des gens. J'espère, en tout cas. Moi, je suis écrivain de jeunesse, et puis maintenant, je suis devenu écrivain de vieillesse. Je suis les deux extrêmes. Les livres m'ont toujours aidé. Alors, j'espère que ce livre va aider aussi. C'était un jeu entre nous. Et puis, comme Georges est suisse allemande, et moi, comme vous pouvez entendre, je suis une amerloque. Ma fille, qui est professeure à la Sorbonne, elle corrige tous mes textes. Alors, je lui ai envoyé, et elle a dit, « Maman, c'est vachement bien. »
Ça mérite d'être édité.
Et ça m'a donné le courage de le montrer à mon éditeur chez Bayer.
Vous avez donc 60 ans au début de l'histoire, Suzy. Vous
oui,
êtes veuve
c'était
de...
il y a 14 ans.
Hein, c'était il y a 14 ans. Donc vous avez en fait l'âge que Georges avait à l'époque, hein, aujourd'hui.
Oui.
Vous êtes veuve de Jacques, donc, depuis 11 ans. Comment est-ce que vous expliquez, vous qui avez l'air tellement sensuel et intéressé par le sexe, que vous ayez à l'époque tiré un trait sur tout ça?
Mais je crois que toute mon libido était noyée dans des larmes. Je pleurais. Jacques était immense. C'était un homme avec un charisme, un mathématicien français, un polytechnicien. Je pensais qu'il était pour toujours et puis j'avais peur de le trahir.
Mais ça dure 11 ans?
Ah oui. Il méritait au moins 11 ans.
Moi, je me disais que vous aviez sublimé aussi, parce que vous avez été professeur d'anglais à l'université de Nice, vous êtes donc écrivaine pour enfants. On a l'impression, à vous lire, que vous vous êtes lancée dans une sorte de suractivité pour sublimer cette libido en berne.
Mais oui, vous faites un bon psy.
Merci.
Oui, et puis j'acceptais toutes les invitations aux quatre coins de la Terre.
Pour les salons du livre.
Dans des lycées français, dans les instituts français. J'étais comme une nymphomane des écoles.
Ouais. Vous acceptiez une invitation par week-end, quoi, en gros, pour résumer. Par semaine.
Week-end et par semaine, oui. Oui, et... pour aller très loin, en Chine, au Vietnam, en Californie.
Vous remplissiez le vide, quoi.
Oui. Et ce que j'ai fait pour de vrai, c'est de multiplier les retours à la maison, qui étaient très pénibles.
Et Georges, alors, est-ce que lui, il a sublimé d'une manière ou d'une autre?
C'était plus pratique. Il s'est dit qu'il veut encore vivre et il est allé à ce camp naturaliste où il s'est fait beaucoup d'amis.
Ah ben parce que quand vous allez à ce camp naturaliste à deux, lui il a ses habitudes là-bas.
Oui. Et moi c'était très dur pour moi.
Un naturaliste c'est...
Je peux pousser un homme au lit mais me montrer nu devant un vaste public, non.
Quand vous dites naturaliste, c'est naturiste, hein, ça veut dire à
naturiste,
poil.
Naturiste, ouais. Oui.
Sans Internet, est-ce que vous auriez fait la démarche d'une agence, matrimoniale, Suzy.
Non, non. Internet, c'est anonyme, c'est facile, c'est abordable. Non, non. Et puis, il n'y a pas de moyens à mon âge. Je ne vais pas dans les bars. Je ne saurais pas comment rencontrer un homme. Et puis, il n'y a pas d'hommes. J'étais prof, il n'y a que des profs, des maîtresses, des bibliothécaires, des éditrices. Je ne traversais pas l'ombre d'un homme.
Vous croisiez des hommes, dans la rue, un clin d'œil, un café, bonjour madame, bonjour
jamais,
monsieur.
Impossible. Jamais. Et même dans les avions, oui, c'était plein d'hommes d'affaires, mais non, j'ai même pas pensé à leur parler.
Qu'apporte Internet alors là-dedans? Parce que vous avez failli tomber dans le piège dans lequel tombent plein de gens, qui consiste à rester dans le virtuel, c'est-à-dire je me connecte, je drague, je rencontre des gens par Internet, mais on se voit jamais.
Oui, mais c'est grâce à Georges. Je lui ai dit que j'étais à Paris, il a dit que j'arrive par le prochain train.
Oui.
Alors je me suis dit, quel homme décisif.
Alors moi, il y a un truc qui m'a bien intéressé dans votre rencontre. D'abord, vous échangez pas de photos. Alors ça, pour l'époque actuelle, ça paraît surréaliste. Vous ne vous êtes pas envoyé de photos l'un de l'autre avant de vous rencontrer.
Non, parce que moi, j'ai pas mis de photos sur le site web parce que on me reconnaît un peu.
Oui.
C'est assez anonyme, la littérature de jeunesse, mais quand même.
Ah oui, quand on tape votre nom sur Internet, il y a votre photo partout, oui.
Oui, il a sans doute vu sur Internet.
Mais vous, ça ne vous intéressait pas de connaître son physique?
Mais lui, il avait une petite photo d'il y a 40 ans.
c'est souvent ça sur Internet.
Hein. Oui.
Et la question qui me venait juste derrière, c'est... Est-ce que plus on vieillit, finalement, moins la question du physique compte?
Mais finalement, la rencontre par Internet est une façon de se rencontrer très ancienne, parce qu'on s'écrit, on s'est écrit longtemps, on se connaissait de l'intérieur avant de se voir, et puis ça n'avait plus d'importance.
Expliquez-moi ça, parce qu'évidemment, quand on est très jeune, moi je suis au milieu du chemin là, quand on est très jeune, il n'y a que le physique qui compte, il faut qu'elle soit mignonne, il faut qu'il soit mignon. Et puis on voit bien qu'en vieillissant, les gens deviennent moins centrés sur la question physique.
Ça n'a jamais été très important pour moi. Je voulais un homme grand, parce que ça c'est culturel. En Amérique, il faut que l'homme soit plus grand que la femme.
Oui.
Alors, ça, c'était important pour moi. C'est tout.
À entendre vos deux noms, Suzy, on voit de quoi il s'agit. Vous êtes juifs tous les deux. Alors, j'ai un peu déjudaïsé votre histoire pour la rendre universelle. Et puis, il y avait plein d'expressions en yiddish, en hébreu, qui n'étaient pas compréhensibles par tous. Mais ça a beaucoup compté dans votre histoire, ça.
Mais on a tout de suite parlé hébreu ensemble.
Parce que vous parlez hébreu tous les deux.
Oui. Georges a vécu un kibbutz, il a fondé un kibbutz en Israël. C'était un pionnier. Et moi, j'ai fait mes études à Jérusalem. Alors, on s'est tout de suite trouvé une sorte de chaleur à parler hébreu ensemble.
Et lui a été heureux de vivre avec vous les rituels, car en revanche, il ne pratiquait pas les fêtes, il ne faisait pas Shabbat. Un des grands bonheurs, on le lit dans votre livre, c'est de faire ce Shabbat ensemble.
Oui, on est tout contents. Je vais en Suisse demain et on va faire Shabbat vendredi soir. Et c'est un grand moment dans notre semaine. Et il était heureux de le découvrir avec moi et de le pratiquer avec moi.
Et chez vous, c'est cachère. Hein. Chez vous, tout
chez
est
moi,
cachère.
Chez moi, c'est cachère, pas chez Georges. Ma maison est cachère, mais pas mon estomac.
D'accord. Et chez Georges, rien n'est cachère. Alors, vous passez du cachère au pas cachère, ça vous gêne pas?
Ah oui.
vous n'êtes pas bloqué là-dessus?
Non, je suis un peu végétarien, un peu flexitarien, un peu selon ce qu'il y a sur la table.
Alors, on est très touché aussi par la réaction de vos filles. notamment votre fille qui vit à Paris, est-ce que vous la comprenez un peu dans sa réaction? Mais enfin, maman, t'es devenue cinglée, t'as pas 15 ans, t'es pas une ado, tu découches pas, quoi, et puis tu t'entiches pas du premier homme que tu croises.
J'étais surprise par sa réaction, mais elle avait l'habitude d'une maman qui était présente, qui était sage. Elle reconnaissait pas cette maman-là.
Et il y avait un sentiment de trahison vis-à-vis de leur père, de Jacques?
Je n'ai jamais pensé, je pensais que c'était plutôt la mère bien rangée qui devait rester comme ça.
À garder les petits-enfants.
Il faudrait que je leur demande si c'était ça.
Ça continue un peu depuis où la question est définitivement réglée?
Oh non, pas oui, c'est réglé, c'est pas du tout, elles sont contentes. Elles sont contentes parce qu'elles n'ont pas à se soucier de moi et de ma solitude.
Oui, ça les soulage d'une certaine manière.
Oui, exactement.
Georges fait ce qu'elles auraient dû faire, elles, c'est-à-dire prendre de vos nouvelles tous les jours.
Et puis, elles sont allées chez Georges, et puis on est un peu une famille récomposée maintenant.
Alors, il y a vraiment une scène, moi, que j'ai trouvée très, très émouvante. C'est la scène du lit que vous avez donc chez vous à Nice, qui est le lit dans lequel, sans doute, vous avez conçu vos enfants, que vous avez construit avec votre mari, bâti de telle sorte que vous puissiez voir la mer depuis votre lit. Et je comprends que vous vous posiez la question. Est-ce que je peux mettre cet homme-là dans ce lit qui a tant compté dans ma vie?
Mais la transition s'est faite naturellement. Et c'était pas trop de problèmes. Je peux vous dire quand même que si les lits sont standards, c'est bien. Parce que monter dans mon lit à nos âges, c'est pas facile.
Ah oui, parce que pour moi, la mer, c'est un peu haut.
Oui.
C'est ça la conséquence. Alors, Vous avez pris la décision très intéressante de ne pas vivre ensemble. Est-ce que c'est ça la clé de la réussite d'une histoire comme la vôtre?
Oh, c'est la vraie formule magique.
Pourquoi?
Parce qu'on n'a pas de problème, on n'a pas de routine, on se voit pour des bons moments, seulement pour des bons moments. Et puis, moi, je travaille énormément. Et bon, 120 livres à peu près, ça ne s'écrit pas tout seul. Mmh. Et il faut que je travaille, je ne peux pas vivre sans écrire. Alors, oui, Georges a compris ça. Et puis, c'est bien d'alterner entre la solitude et le couple. Je le conseille. Évidemment, on ne peut pas le faire quand on a une famille, des enfants. Mais nous, on peut le faire. On a le luxe de pouvoir le faire.
La question de vivre ensemble s'est posée à un moment?
Ça se pose un peu maintenant. Parce que Georges aurait de plus en plus besoin de moi. Et ça se pose maintenant.
Mais il n'y a pas de décision encore?
Non, mais lui, il ne veut pas venir vivre à Nice parce que sa famille est à Neuchâtel. Moi, je ne veux pas aller vivre à Neuchâtel parce que ma famille est ici. Alors, c'est compliqué.
Une dernière question pour vous, Suzy. Est-ce que ça rajeunit de vivre une histoire d'amour comme la vôtre, tardive?
Oh, c'est le potion parfaite pour rajeunir. Il n'y a rien qui rajeunit comme ça. Le sexe, waouh, c'est quelque chose.
Merci beaucoup, Suzy. Merci d'avoir accepté de nous confier cette intimité, cette très belle histoire, tirée donc de ce livre que je recommande à tous ceux qui sont concernés. Alors ça, finalement, ça fait beaucoup de monde, c'est-à-dire que ça fait les parents, mais ça peut aussi être lu par les enfants qui veulent essayer de comprendre pourquoi leur père ou leur mère s'est recasé comme ça tardivement. Ce livre s'appelle « Fleurs tardives ». Il paraît aux éditions Bayard, j'ai pas dit Fayard, j'ai dit Bayard, B-A-Y-A-R-D, et il est signé Suzy Morgenstern et Georges Rosenfeld.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.